À l'occasion du gala de présentation du projet international Entrepreneuriat féminin et solidarité numérique, organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, Valérie Tomatis a rencontré Madame Viviane Wade, première dame du Sénégal.
Vous êtes l'invitée exceptionnelle du gala organisé pour fêter leurs 5 ans d'existence par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et à l'occasion duquel sera présenté leur projet international Entrepreneuriat féminin et solidarité numérique. Le projet a été initié au Sénégal. Vous faites partie des acteurs qui ont déterminé ce choix. Votre époux, le président de la République du Sénégal, est le père fondateur de la solidarité numérique. Il est donc très investi dans la lutte contre la fracture numérique et vous êtes vous-même très active, entre autres, en faveur des femmes de votre pays. Qu'est-ce que ce projet amène de complémentaire par rapport aux actions qui sont nombreuses que vous menez déjà au Sénégal?
Écoutez, c'est vraiment non pas seulement complémentaire, mais c'est quelque chose qui va projeter cet effort vers un développement durable, projeter plus vite, permettre aux populations d'atteindre leur objectif. Alors que, vous savez, quand on vit dans un environnement absolument hors de la réalité internationale, hors des progrès, eh bien, c'est très difficile, par exemple, de faire un très bon enseignement à des élèves. Et je me suis aperçue que c'est des choses très concrètes. Par exemple, tel que, je vais vous donner, citer un exemple, j'avais commencé par la santé satellitaire, par satellite, et nous faisions des échographies vraiment dans le coin le plus reculé du Sénégal, au sud-est, à l'extrémité, dans une zone extrêmement isolée, ne connaissant pas la santé. Et les femmes ont déferlé parce que là-bas, il y a 5 habitants par kilomètre carré. Alors elles venaient de leur village en file indienne et les maris étaient derrière l'ordinateur qui projetait la peau sur l'écran l'échographie. Et s'il y avait eu un problème, il y avait le technicien qui pouvait soumettre le problème que le gynécologue ne pouvait comprendre ou bien régler sur Dakar, sur des hôpitaux de Dakar. Or, il faut savoir qu'au Sénégal, même dans les villes capitales, mais surtout dans les campagnes aussi reculées, le sexe est quelque chose de caché. Par exemple, les problèmes d'un mari et d'une femme se règlent à travers une matrone. Ils n'abordent pas ensemble un problème. Et donc, tout d'un coup, en quelques minutes, apparaît sur un écran l'intérieur du ventre d'une femme enceinte. C'est pas évident pour ceux qui savent pas lire, tellement une image, c'est pas tout à fait évident de savoir ce qui se passe. Mais voilà que ces hommes, avec des pudeurs qui remontent à des siècles et des siècles, sont confrontés à la réalité, au fruit de l'acte sexuel. Alors, c'était un fœtus qui était déjà bien développé. Et je dis au gynécologue, s'il vous plaît, expliquez aux hommes qui sont derrière, qui est peut-être le père, ce qu'ils voient. Alors, il leur dit, là, c'est la tête. Là, c'est les yeux. Là, c'est le nez. Là, c'est la bouche. Et cet heureux fœtus a eu la bonne idée de mettre son pouce doigt dans sa bouche. Il dit, il vient de mettre son pouce dans sa bouche. Si vous avez vu ces hommes, on aurait cru qu'ils étaient au paradis. Un sourire sur des dents, hélas, édentées très jeunes, mais un sourire de ravissement, quelque chose qui les bouleversait, une découverte qu'ils ignoraient. Et en partant, Je fais toujours des recommandations, même si le vent les emporte, il reste à mon avis toujours quelque chose. Alors je leur dis, écoutez, vous voyez l'enfant, il est en communication avec la maman. Il entend tout ce que sa maman dit, tout ce que les personnages qui sont autour de sa mère disent. Et quand vous grondez très fort votre femme, et même que vous la battez, l'enfant souffre comme sa mère, dans les mêmes proportions. Et quand votre mère envoie sa belle-fille travailler très dur dans son champ, sous prétexte que l'accouchement se fera beaucoup plus facilement, eh bien, c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes à la naissance. Et je suis partie. 9 mois après, je me retrouvais à mon hôpital de Ninefecha. Là, c'était vraiment l'extrême est, frontière du Mali. Moi, j'étais beaucoup plus à l'ouest, pas très loin du Diokolo-Koba, et pas loin de la Guinée non plus. Et des journalistes, gens de la télévision, faisaient le même périple que nous avions fait pour recueillir les réactions des gens. Et ils me disent, dans un village où vous avez fait des recommandations, ils m'ont promis, ils m'ont dit que depuis votre passage, les femmes n'allaient plus travailler les champs quand elles étaient enceintes. Mais vous n'auriez jamais pu obtenir, par des plaidoiries, par un raisonnement, par des recommandations d'un médecin, jamais vous n'auriez pu obtenir cela. Mmh. C'est l'image. De voir, ils n'imaginaient pas comment vivait l'enfant dans le ventre de sa mère. Et ça, ça a fait une révolution. Or, je pense que la solidarité numérique peut avoir des projets, des changements de comportement qui sont très difficiles à vaincre. Et là, en quelques instants, tout un pan de préjugés est tombé.
Oui, c'est ce que vous expliquez, qu'en fait, au-delà de la fracture numérique, ou à travers, en fait, ce qu'on peut développer, vous œuvrez en faveur d'une meilleure communication entre hommes et femmes dans votre pays.
Hein. Bon, j'ai créé des écoles communautaires rurales, parce que je veux absolument que nos paysans, pour un développement durable, le président plaide beaucoup pour un développement durable, eh bien, pour un développement durable, il faut que les paysans, c'est eux qui vont participer beaucoup au développement durable. Parce qu'ils produisent la nourriture, ils produisent ce qui va s'exporter, ils produisent même peut-être dans quelques années des réserves pour l'année suivante, si cette année suivante n'est pas favorable à la culture. Eh bien, ça sera beaucoup plus facile si créer des cours d'agriculture biologique, parce que je suis très biologique, c'est très difficile. Les instituteurs n'en voient pas la raison, disent que ça prend le temps sur leur programme pour le concours en sixième. On a beau leur dire, vous voyez, dans la ferme école qui est à côté, regardez maintenant les vaches qui sont toutes petites, parce qu'il y a dans cette région-là, il y a la mouche tsetse. Alors les poules sont comme ça, les chèvres sont comme ça, les vaches sont comme ça. Et nous, on travaille, on leur apprend à lutter contre la tsetse, avec des pièges. On n'a pas encore trouvé le moyen encore, mais on le cherche. On l'a presque trouvé parce que j'ai créé une fondation pour perpétuer mes projets, que sont les écoles communautaires rurales, que sont l'hôpital très moderne, que sont sur l'occupation des femmes au maraîchage, pour qu'elles gagnent leur vie, les mères des élèves en particulier. Et nous sommes là dans une région extrêmement difficile. Ce climat, celui tropical, beaucoup de petites ethnies qui tiennent beaucoup à leur langue. Nous avons transcrit les langues minoritaires parce que pour moi, l'enfant ne pourra accéder au français, qui est la langue nationale, que s'il apprend à apprendre dans sa langue maternelle. Il y a un processus d'apprendre à apprendre. C'est pas évident de mettre un enfant et faire des cours en français. Il y a un processus de lui apprendre à apprendre. Et il ne peut le faire que dans son langage.
Oui, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est toujours revenir aux sources. Là, vous dites donc la langue, donc revenir à leur langue maternelle.
Oui, pour repartir.
L'agriculture, c'est la base de tout.
Et ils se mettent très vite à l'ordinateur. Là, je vais avoir l'électricité dans cette région bientôt. Vous ne pouvez pas avoir d'ordinateur. Mais à Bissau, à 70 km, j'ai une école. Eh bien, depuis l'âge de 5 ans, les enfants font des calculs, prennent le français, travaillent avec beaucoup sur l'ordinateur chaque jour.
Donc, vous parlez de votre fondation, qui est l'association Éducation Santé.
D'abord, c'est une ONG que j'ai créée.
Oui.
Je l'ai créée en 2000. Et là, c'était surtout pour la qui s'appelle Santé Éducation. Donc, pour la santé, il y a eu l'hôpital, un hôpital, petit hôpital, mais très moderne, qui m'a été offert par les clé en main par les Hauts-de-Seine et qui a ouvert ses portes en 2003 parce que cette région n'avait pas accès à la santé. Nous sommes dans les contreforts du Foutage Jalon. Nous sommes à la saison des pluies. Il y a toute une région dont le plus grand bourg est Salimata. On ne peut pas gagner Salimata. Aucun 4x4. Même pas des motos. Et là, j'ai des écoles au-delà. Les gens n'ont pas accès à la santé. Et maintenant, d'abord, avec le projet du président de faire absolument que tous ceux dans certaines régions extrêmement démunies, tous les soins apportés depuis les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement ou la césarienne ou les complications obstétricales qui se posent sont gratuits. Donc, il fallait amener petit à petit la femme, et souvent, ce sont des hommes qui survivent dans cette région-là. J'ai voulu les loger, mais c'est quand même... je préfère être à Dakar, hein, ces médecins. Et donc, c'est une révolution.
Vous disiez que la santé donc, est offerte à titre gracieux, c'est ça
Non, il ne faut jamais donner quelque chose de gracieux. Mais les soins que nous donnons sont les plus faibles, les prix les plus faibles du Sénégal. Autrement, ça n'est pas bon. On ne considère pas ce qui est gratuit. Mais c'est très faible, une petite somme. Mais les soins concernant tout ce qui... entoure la femme enceinte, ce qui concerne la femme enceinte, sont gratuits.
Sont gratuits, c'est important. Vous savez, oui, vous insistez beaucoup là-dessus qu'il peut y avoir de développement durable.
Alors, j'ai créé une ferme-école, parce que là-bas, on peut très bien élever les bœufs. Bon, j'ai des taureaux extraordinaires, j'ai des vaches. Alors, là aussi, nous sommes arrivés en 2000 dans une région presque de mentalité chasseur-cueilleur. Il n'y avait pas de chasseurs parce que comme le parc de Nyokolo-Koba est à deux pas, ils étaient interdits d'armes pour ne pas détruire les bêtes qui sont dans le Nyokolo-Koba, les animaux protégés. Mais les femmes étaient cueilleuses, allaient cueillir leurs petits revenus, les tiraient de la cueillette dans la forêt, parce que là-bas, c'est très boisé. Et il y avait beaucoup de piqûres de serpents, et surtout de tétanos. Donc maintenant, elles font un maraîchage et en très peu de temps, elles ont appris le maraîchage. Je pense que dans cette région, elles sont plus courageuses que pas loin de Dakar. Et elles se sont mises à un maraîchage, elles cultivent énormément dans la ferme-école, sous la direction quand même d'un ingénieur à Grenoble qui est là-bas, qui vit sa retraite là-bas et qui forme aussi les jeunes à l'élevage et à la culture biologique, naturellement. Et ces femmes, par exemple, les quelques femmes, parce que les villages ne sont pas nombreux, ont peu d'habitants. Ninefecha, c'est la même chose. C'était quelques cases quand on s'est installé. Mais c'était au cœur au cœur d'un cercle de 40 000 habitants. Et maintenant, vous avez les Guinéens, les Maliens qui viennent donc pour se soigner. Et puis, cette cohésion dans le maraîchage. Au début, on demandait aux femmes des villages environnants de venir. On avait fait une nurserie pour les petits bébés. Et elles cultivaient chacune une parcelle pour vendre. Mm-hmm. Et maintenant, c'était trop fatigant pour elles. Et maintenant, notre ingénieur se déplace de village en village. Il y a 40 villages maintenant. Et donc, se déplace. Et chacune, maintenant, elles apprennent mieux d'ailleurs. Eh bien, le revenu de ces femmes excessivement pauvres, vivant dans une pauvreté que vous ne pouvez imaginer, ont quand même gagné en 5 mois et demi 2 700 000. C'est une fortune pour elles.
C'est-à-dire que maintenant, ils sont autonomes financièrement?
Non,
et qu'ils arrivent pas possible. C'est pas possible.
Il faut encore les guider. Mmh. C'est long, c'est très long, mais elles cultivent bien. Alors, on n'en est pas encore là, à la sortie de la pauvreté. Il faut une aide permanente. Mais ailleurs, je me suis occupée de femmes à qui on avait donné, soi-disant, du terrain. Notre législation permet aux femmes d'être propriétaires de terres. C'est une révolution. La terre appartenait aux hommes. Eh bien, rien n'a encore été mis en pratique. Oui. Mais là, j'ai dit, moi, je m'occupe des femmes si celles-ci ont un terrain. Et un homme merveilleux, un vieux monsieur, leur a donné en 2-3 fois 50 hectares en un seul tenant. Mmh. Et j'ai choisi une plante qui ne demande pas beaucoup d'eau, qui est vraiment la plante sahélienne et qui rapporte beaucoup d'argent. Et ça n'était pas avant 2003, ça n'était pas une culture, c'était une culture familiale en bordure de champs. Le bissap, je ne sais pas si vous connaissez le bissap de la famille des hibiscus.
Des hibiscus.
Oui, mais elle peut servir à la teinture. En Allemagne, ils s'en servent pour la teinture. L'Union européenne importe beaucoup, et les États-Unis aussi. Mm-hmm. Mais l'Union européenne achète bio. Les États-Unis, ça leur égale. Ils peuvent transformer en sirop. Mm. Ils peuvent servir à la pâtisserie. Bon, c'est très 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 demandé. Nous sommes maintenant, on pourrait dire, les septièmes producteurs d'Afrique et d'Asie. Mm. Et il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas de production du tout, enfin juste familiale. Mmh. Et on occupe un rang maintenant dans la culture sénégalaise, un rang après l'arachide, après le maïs, après le mil, après le manioc, c'est la plus grosse. Nous sommes arrivés à bouleverser la cuvette arachidière. Mmh. De Nioro du Rip, ouais. C'est arrivé dans la région de Dakar en passant dans d'autres régions. Parce que ça rapporte. Ça s'exporte très cher. Il y a trois cueillettes, l'une après l'autre. Et la première, les femmes l'exportent, parce qu'elles auront besoin d'argent, beaucoup d'argent, elles n'ont plus rien. Et puis, les autres récoltes, elles les mettent à l'abri. Et elles sortent petit à petit au moment où le bissap devient très rare et très cher. Alors, j'ai lu ça m'a fait grand plaisir, une étude qui a été faite sur le bissap par Madame Doucouré, qui est une économiste, spécialiste de ce genre de rapport, du milieu rural, et qui dit que nous avons beaucoup travaillé, que les femmes sont sorties de la précarité, qu'elles ont un revenu fixe, mais il faut maintenant assurer qu'elles puissent le faire seules, sans notre aide financière et fonctionnel.
Et vous pensez que ça va prendre combien de temps pour qu'elles puissent avoir le retour?
Alors, elles sont très décidées. L'économie. Vous comprenez, en Afrique, si on veut intéresser une femme, moi j'ai fait pendant 26 ans de la broderie avec les femmes de tout un village, Malika. Je ne sais ni broder ni dessiner. Et puis on est arrivé à faire des choses aussi jolies que chez Noël à Paris, la meilleure maison de, qui vend de linge de table et de... Voilà, donc avec, on peut toujours tout faire quand on veut. Et actuellement, la plupart d'entre elles sont travaillent.
Et donc,
et 26
ça,
ans de ma vie, je m'en suis j'ai donné.
Et donc ça, ce n'est que de l'agriculture biologique. Hein, on est bien
là maintenant, je suis sur l'agriculture. Voilà. Je suis dans la mouvance du président qui a lancé la guana, c'est-à-dire cultiver. Il faut absolument qu'on arrive à l'autosuffisance, surtout en riz. Mais en riz, cette année, on est arrivé à 50%, madame l'ambassadeur, je crois. 50% de notre consommation. Parce que nous consommons beaucoup de riz. Et vous savez, c'est pas une habitude qui vient des mœurs africaines d'autrefois. Mm-hmm. C'est pendant la colonisation française. Les Français avaient l'Indochine. Et ils ont cultivé beaucoup de riz. Et à un moment donné, il y avait tant de récoltes qu'ils savaient qu'en faire. Donc, ils ont amené le riz
en Afrique,
surtout au Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le repas idéal pour les femmes. Et elles ne peuvent plus se passer de riz. Alors maintenant, on produit du riz, mais pas encore en assez grande quantité. Mais on est arrivé, parce que le riz, on importe du riz, mais c'est presque le budget national.
Oui, actuellement, vous l'importez, c'est
oui,
ça,
mais
parce
non,
que c'est devenu un plat de base.
À 50% maintenant.
Mmh, d'accord.
Simplement 50%. Ouais. Avant, c'était 100%. Mmh. Donc, on fait des progrès.
Ouais.
Alors, moi, j'arrive dans cette, comment dirais-je, développement durable avec une fondation qui s'appelle la Fondation Agir pour l'éducation et la santé. Parce que je veux déjà préparer à ce que toutes les activités que j'ai créées puissent être couvertes par les revenus, les bénéfices que rapporte cette fondation. Et j'ai choisi avec bonheur, parce que c'était ma passion, les produits biologiques, les pesticides biologiques, les engrais biologiques. Donc nous traitons les criquets pèlerins, les sauteriaux, les nématodes, la maladie de la pomme de terre, les mouches blanches, les mouches du fruit, les maladies cryptogamiques, les pucerons et d'autres petites maladies comme ça. Et donc j'ai donné un ordre. Améliorer la qualité de façon qu'on ne soit pas à 75 grammes en grain de muscle, mais qu'on arrive plus bas. On est arrivé à 20 grammes. Et ça a autant d'effet que 75 grammes. Et c'est pas cher. Moi, je veux que le paysan cesse de... Il peine avec la... Il sent qu'il est malade. Il n'aime pas l'engrais chimique. Eh bien, se sentent à l'aise. Et ça, nous avons fait des essais, naturellement. Et les essais ont eu lieu dans une grosse société française de canne à sucre. Eh bien, je vous assure qu'on plante le même jour, à un peu de distance de différent, avec l'engrais chimique, avec notre engrais, et qui est adapté au sol. Parce qu'il y a des sols sableux où il y a les nématodes, rien ne peut pousser. Eh bien, très vite, nous avons dépassé la culture avec engrais chimiques et produits chimiques, et maintenant, ils ont doublé leur surface de production maintenant.
C'est un bel exemple, ça. Il faudrait communiquer.
Alors c'était le meilleur exemple, parce que nous, ça nous a appris beaucoup de travailler avec des purs et durs financier, hein, mmh. et en même temps, les paysans, le bouche à bouche. Et nous avons fait beaucoup de plaidoiries dans les villages, surtout dans les centres de culture des paysans. Et alors, comme j'ai peur des intermédiaires, doubles, triples, mmh. donc nous avons décidé de vendre directement aux paysans, mmh. en essayant même de leur fournir plus tard, c'est un projet de très bonnes graines, et pour qu'ils gagnent plus, qu'ils produisent plus. Ça, c'est le développement durable. Et ils se passionnent. Ils se passionnent pour l'agriculture, parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Et plus ils en gagnent, plus ils sont disposés, ils ne sont pas des paresseux, plus ils sont disposés à travailler. Et justement, ce projet numérique peut nous aider grandement à leur expliquer comment la terre... Parce que les engrais chimiques et les pesticides chimiques ont désertifié le sol. La production est beaucoup moindre, le sol est mort. Il faut reconstituer, autrement c'est le désert. Et c'est comme ça que, par exemple, vous avez Arte, qui a sorti dernièrement un film sur Monsanto, et où ils ont montré dans le monde la désertification en Inde, partout où ils sont passés.
Et là, vous disiez donc que le numérique, ça peut leur apporter des informations à ce sujet, c'est ça que vous voulez dire ?
Bien sûr, à devenir des entrepreneurs, à devenir non pas des paysans, mais des agriculteurs. Ça va leur apprendre beaucoup de choses. Ça va leur apprendre on fait telle dépense, il faut s'attendre à tel revenu. Il faut, bon, là, par exemple, je retourne à Ninefecha, où un jour j'ai aperçu trois commerçants magnifiques, somptueux, dans des bobos merveilleux. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils viennent quand même pas à l'hôpital. Et on m'a dit, non, ils viennent acheter sur pied les cultures à 40 francs. Qu'est-ce qui reste? C'est avant que nous n'arrivions pour lutter contre la mouche tsetse, les paysans étaient à 90 pour préparer un hectare avec la daba. Bon, maintenant, avec des bœufs bien nourris, qui n'ont plus de tiques, qui n'ont plus de mouches qui les agacent, les mouches tsetse qui les piquent, nous avons une espèce extrêmement robuste et qui fait en quelques heures un hectare, qui laboure en quelques heures un hectare. Et ils sont quittes de demander au village voisin, il y a une grande solidarité paysanne, mais cette solidarité a un coût. C'est-à-dire que tous les soirs, où les voisins sont là, il faut faire la fête. Faire un bon repas de fête, et ils sont obligés de s'endetter pour aller acheter le riz, pour aller acheter le fognon, pour aller acheter ceci, cela. Et sur les 40 francs, il faut qu'ils remboursent leurs graines, qu'ils remboursent leurs graines, les intrants, qui étaient chimiques autrefois, et rembourser le marchand qui leur a fait crédit pour nourrir tout le monde. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien.
Au niveau de la distribution, comment ça se passe? Il passe là aussi par des intermédiaires?
Si, mais nous voulons éviter les intermédiaires.
Je me doute bien, c'est pour ça que je pose la question.
Nous voulons éviter les intermédiaires, et ils ont très bien compris. Et c'est pour ça que dans mes écoles, il y a l'arithmétique. On produit, pour produire tant, on a dépensé tant, on fait les additions, on fait après la soustraction, et voilà le bénéfice. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bénéfice plus fort? On les sensibilise à cette projection de l'enrichissement, du mais prix comme... de leur travail.
Mais en même temps, pour vendre, ils vont être obligés, non, de passer par certains intermédiaires.
Alors nous, voilà, là, on a fait avec, d'ailleurs, Madame l'ambassadeur, à l'époque, nous a beaucoup aidés. Je vous assure, en une fraction de seconde, j'ai dit, on va créer une banque céréalière. Et elle nous a aidé à monter sur... maintenant, on a 44 villages, banque céréalière. Tout le monde voudrait venir. Mais si on grossit, on ne pourra plus être aussi transparent. C'est dur de garder l'argent des autres. On achète, au lieu de 40 francs, je ne sais plus combien on achète maintenant, mais la première année, on achetait à 100 francs. Et on a dit à tous ceux à qui on ne pouvait donner 100 francs, ne vendez pas à moins de 90 francs. Et ces 100 francs, donc l'association éducation santé, ou la ferme école, a acheté donc leurs produits céréaliers et nous les mettons à l'abri contre les termites, contre tous les insectes nuisibles, contre l'humidité, dans des gros boudins. Avec un tracteur, on enfourne. Quand c'est bien plein, on fait le système de fermeture comme pour les produits à congeler. On peut les laisser sur place, par terre, et les paysans sont heureux, c'est là. Mais ils doivent racheter au moment de la soudure. Et on leur vend, la ferme école leur vend, à moitié prix du prix qu'ils achèteraient, qu'ils seraient obligés d'acheter sur le marché de Kédougou, qui est très élevé à cette époque. Donc, il y a un bénéfice qui a été fait par la ferme école. Ce bénéfice a été placé à la banque, et maintenant nous attendions d'avoir un certain nombre de millions de bénéfices pour faire une mutuelle de santé. Ils sont absolument ravis. Ça, c'est le développement. Il va falloir qu'on réfléchisse, parce que moi, sur la solidarité numérique, je trouve que c'est un projet absolument fantastique pour le développement. Cette solidarité numérique avec ces projets peuvent très bien, pour le moment, on entend le partenariat, on va faire du microcrédit. Mais moi, je trouve que le microcrédit qui est appliqué en Afrique est trop cher, l'intérêt est trop cher. Ça va jusqu'à 25% au Cameroun. C'est de l'usure. Et donc, nous ne dépasserons pas 10%, mais nous tenons à être remboursés. Et pour cela, on ne va pas saisir un objet, un tracteur ou quelque chose comme ça. On va fédérer les hommes ensemble et on va leur dire qui veut participer comme caution.